Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Antoine Cavalierou, Vincent Parisot.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. RTL Midi commence, on est ensemble jusqu'à 14h30, 2h30 d'infos, d'opinions. Vous savez que Pascal Praud prend un peu de repos, il sera de retour lundi prochain. Évidemment, on reste avec vous à votre écoute, on va échanger, dialoguer. Tiens, on va aussi parler de cette année 2022 qui se referme. Dites-nous quels sont les événements qui vous ont marqué. De la chaleur de l'été à l'élection présidentielle en passant par la mort d'Elisabeth ou la Coupe du Monde au Qatar, ce ne sont que des exemples. Bien sûr, vous allez réagir à toute l'actualité qu'on va développer dans un instant. Un seul numéro, le 3210. Et pour l'info, jusqu'à 13h, c'est avec vous Antoine Cavalierou. Bonjour.
Bonjour Vincent, bonjour à tous. Doit-on craindre une pénurie de médicaments? Submergée par le Covid, la Chine interdit l'export de paracétamol, mais d'autres médicaments pourraient manquer dans nos pharmacies. L'explosion du Covid en Chine et l'inquiétude du monde quant à un potentiel nouveau variant. La France songe à protéger ses frontières. On en parlera à 12h40 avec l'infectiologue Benjamin Davido. Une erreur médicale à peine croyable, opérée à tort d'un cancer. Un sexagénaire se dit mutilé. Il parle sur RTL. Des hommes d'affaires russes qui décèdent dans d'étranges circonstances. On y revient à 12h10. Et puis le foot. Kylian Mbappé décisif sur le terrain hier contre Strasbourg et incisif devant les micros.
Et puis RTL midi, un jour chez vous. Vous savez que cette semaine, on célèbre les héros de 2022.
Aujourd'hui, deux anges gardiens des Ardennes, ils ont sauvé un couple de la noyade. À 12h20, RTL Midi, votre vie, on vous aide à choisir le bon champagne pour le 31. Un caviste sera en studio, lui et ses bonnes bouteilles avec modération, évidemment. Enfin, juste avant 13h, laissez-vous tenter avec trois pépites littéraires de cette année, sélectionnées par Bernard Lehu. La question du jour sur RTL.fr, Covid, craignez-vous une nouvelle vague venue de Chine?
Voilà, autant de sujets, évidemment, que vous allez pouvoir développer, débattre éventuellement à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. 3210.
La météo, Louis Baudin, bonjour.
Bonjour.
En un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Eh bien, de la pluie, un peu de neige en montagne, beaucoup de vent sur le littoral de la Manche et toujours de la douceur.
Merci Louis, météo complète à la fin de ce journal.
Merci Louis et un tour de plus au compteur. Hein. Aujourd'hui, on vous souhaite un bon anniversaire.
Merci beaucoup.
RTL Midi.
Alors, c'est la question du jour. Est-ce qu'on se dirige vers une pénurie de médicaments?
Avec l'explosion des cas de Covid en Chine, plusieurs centaines de millions de malades, les usines pharmaceutiques sont réquisitionnées par l'État et le paracétamol est interdit d'exportation. Résultat, nous allons avoir du mal à nous approvisionner et le médicament pourrait venir à manquer dans les rayons. Le professeur de pharmacologie Bernard Bégaud était l'invité de RTL Matin.
Si ça dure, c'est évident, puisque on ne le produit pas en quantité. Donc on aura des pénuries, mais on aura aussi des pénuries sur beaucoup d'autres médicaments extrêmement importants pour la survie de nos concitoyens. Il n'y a pas que le paracétamol. Il y a au moins 80 médicaments essentiels qui sont en jeu, là, et certains qui sont à risque très élevé s'il y avait une pénurie.
Voilà, donc ces prévisions assez inquiétantes hein, du professeur de pharmacologie Bernard Bégaud. Bonjour Virginie Garin,
bonjour.
Chef du service santé d'RTL. Cette pénurie, elle pourrait toucher quels médicaments?
Alors, il faut savoir qu'il y a déjà plus de 2000 médicaments qui manquent en pharmacie chaque année, sur 6000. Hein, il y a régulièrement des ruptures de stock. C'est un problème qui ne date pas du Covid. Et certains ont un intérêt thérapeutique majeur, c'est-à-dire que le patient ne doit pas interrompre son traitement, sinon ça peut mettre en jeu son pronostic vital. Par exemple, des médicaments contre la maladie de Parkinson, l'épilepsie, l'hypertension, des antibiotiques et des anticancéreux.
Est-ce qu'il faut alors relocaliser la production de médicaments?
Oui, et il faut se souvenir que la France était autosuffisante encore en 1990. Et puis les laboratoires sont partis en Chine, en Inde, car c'était moins cher. Alors aujourd'hui, 80% de nos médicaments dépendent de l'Asie, des substances actives, des blisters et même des boîtes en carton. Alors Emmanuel Macron a promis pendant le Covid de relocaliser la production de paracétamol. Une usine devrait ouvrir dans quelques mois en Isère. L'Europe y réfléchit pour les médicaments stratégiques. Si les laboratoires sont partis en Chine, c'est qu'ils produisent là-bas 3 ou 4 fois moins cher. On s'est habitué à se soigner avec des boîtes de quelques euros. Donc il va falloir changer nos rapports aux médicaments, sans doute en consommer moins. La surconsommation en France coûte 10 milliards par an, selon le professeur Bégaud.
Donc changer nos habitudes, construire des usines, mais en attendant, on fait quoi? On fait des stocks?
Alors au début du Covid, l'agence du médicament a demandé au laboratoire effectivement de faire des stocks de sécurité d'au moins 2 mois. En mars cette année, la durée est passée à 4 mois pour 420 médicaments importants. C'est bien, disent les associations de patients, mais il faut rallonger d'urgence la durée et la liste.
Merci Virginie, la pénurie de médicaments ou les risques, vous avez peut-être d'ailleurs été confronté à ce phénomène, on peut en parler au 3210.
Et la flambée des cas de Covid en Chine, elle suscite l'inquiétude partout dans le monde. Le 8 janvier, les Chinois vont pouvoir à nouveau voyager, mais les portes se ferment peu à peu à eux. États-Unis, Italie ou encore Japon ont déjà réinstauré des tests PCR à l'arrivée pour tous les passagers en provenance de Chine. Chez nous, on privilégie pour l'instant une réponse européenne. Une réunion se tient justement aujourd'hui à Bruxelles.
Il est 12h05, vous êtes bien sur RTL et on en vient maintenant à cette invraisemblable erreur médicale à Toulouse.
Nous appellerons la victime Paul. Paul a la soixantaine. En 2018, on lui diagnostique un cancer du poumon. Il est opéré en urgence. On lui retire alors deux lobes du poumon droit. Sauf qu'en fait, Paul n'est pas malade. Le laboratoire s'était trompé. Les échantillons auraient été échangés. Et depuis, Patrick Tégéro, Paul tente d'obtenir justice.
Oui, car rendez-vous compte, un an après l'opération, on découvre que l'échantillon qui a permis de poser le faux diagnostic a un ADN féminin. La faute est donc celle du laboratoire. Et pour l'instant, il n'y a eu aucune enquête. Paul n'en décolère pas.
C'est injuste de ne pas inquiéter les gens qui m'ont donné un résultat qui n'était pas le mien. L'essence de leur profession, c'est la traçabilité. Et là, il n'y a pas eu ça. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que ces gens continuent à travailler et continuent à donner des résultats d'examens qui sont peut-être les mêmes que les miens. Personne ne s'inquiète de ça. Eh bien, moi, j'ai un toujours bon poumon, moi. Et personne n'est responsable.
Alors, les médecins du laboratoire expliquent qu'ils n'ont constaté aucune inversion, car toutes les biopsies réalisées dans les semaines qui ont précédé celles de Paul ont été vérifiées. Et pour eux, ce cas reste donc incompréhensible. C'est au tour de la police, désormais, d'essayer de résoudre cette énigme. Paul et son avocat ont dû porter plainte et ils seront reçus prochainement par un juge d'instruction.
Témoignage RTL recueilli donc par Patrick Tégéro, notre correspondant en Occitanie. En Ukraine, sur 69 missiles russes lancés ce matin sur plusieurs villes, 54 ont été neutralisés, on l'apprend il y a quelques instants, mais les dégâts sont importants. 40% des habitants de la ville de Kiev, de la capitale, n'ont plus d'électricité. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, était à Kiev justement hier, invité de RTL ce matin. Il confirme que la France va continuer de soutenir militairement l'Ukraine.
Allez, on en vient au foot parce que seulement 10 jours après son triplé en finale de la Coupe du Monde, qui n'a, vous le savez, finalement pas gagné, eh bien Kylian Mbappé s'est déjà montré décisif hier soir avec le PSG.
C'est lui qui offre la victoire contre Strasbourg, un pénalty plein de sang-froid à la 96e minute. La star parisienne qui s'est présentée devant les micros à la fin du match, première prise de parole depuis le Mondial. Et Baptiste Durieux, quand Mbappé parle, ce n'est jamais anodin.
Ah oui, il avait des messages à faire passer, une mise au point pleine de maturité sur tous les dossiers pour définitivement tourner la page, à commencer évidemment par la déception du Mondial.
Ouais, c'était des heures compliquées. Je pense que ça va jamais se digérer, je vais jamais le digérer.
Et pour faciliter la digestion, justement, le numéro 10 des Bleus voulait revenir très très vite à la compétition.
On a échangé toute la Coupe du Monde avec le coach et avant la finale, je lui ai dit que je reviendrais, peu importe le résultat, parce que je me sentais bien et que je voulais pas aller en vacances tout de suite, je voulais continuer à jouer parce qu'on a deux matchs importants.
Kylian Mbappé a également évoqué son coéquipier champion du monde, Lionel Messi.
J'ai discuté avec lui après le match un tout petit peu, je l'ai félicité parce que voilà, c'était la quête d'une vie pour lui. Il faut toujours rester bon joueur.
Bon joueur, pas comme les Argentins qui, pour certains, vous le savez, ont célébré leur titre en moquant Kylian Mbappé.
Les célébrations, c'est pas mon problème, je perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles.
Prise de parole simple, claire, nette et précise et les yeux pleinement tournés désormais vers la Ligue 1 et la Ligue des Champions au mois de février avec le PSG.
Baptiste Durieux du service des sports de RTL. Et puis la 16e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui. Hein. Lorient-Montpellier à 17h. 19h, ce sera Reims face à Rennes. Enfin, à 21h, Marseille-Toulouse et Nice contre Lens. La météo, on vous retrouve, Louis Baudin. Des nuages, de la pluie et du vent, c'est le programme de cet après-midi.
Exactement, des nuages avec une perturbation qui est en train de traverser la France. Alors cet après-midi, elle sera surtout installée du sud-ouest aux frontières de l'est avec des nuages, donc de la pluie et un peu de neige également attendue à partir de 1700 mètres dans les Alpes du Nord. Après son passage dans la moitié nord, on retrouvera quelques éclaircies mais avec encore des averses et beaucoup de vent, notamment sur le littoral de la Manche où on frôlera les 90 km/h au moins, puis quelques éclaircies également près de la Méditerranée. Côté température, c'est doux, hein, c'est 4-5 degrés au-dessus des moyennes de saison, 9 à 13 degrés dans la moitié nord et 13 à 16 degrés dans la moitié Sud.
Merci Louis et je vous dis à tout à l'heure.
RTL Midi, un jour chez vous.
Et oui, à 12h10, un jour chez vous sur RTL, vous le savez, on célèbre cette semaine les héros de 2022.
Et nous partons aujourd'hui à Deauville, dans les Ardennes. Dans la matinée du 20 mars dernier, un couple dont l'embarcation a chaviré sur la Meuse a été sauvé de la noyade par deux hommes, ces anges gardiens. Un promeneur et un pêcheur ont chacun de leur côté porté assistance à l'un des naufragés. Bonjour Dimitri Ramelot.
Bonjour.
Alors Dimitri, vous êtes, on va dire, en situation. Hein. Vous êtes au bord du fleuve, près d'un petit embarcadère.
Oui, c'est ici que Christine et Jean ont mis la barque à l'eau ce dimanche matin. Premier tour de moteur, puis au milieu de la Meuse, le petit bateau connaît un problème technique.
J'ai voulu tourner, le moteur est resté bloqué.
L'eau, en même temps, elle rentrait dans la barque en tournant. On a vu qu'on n'avait pas le choix de plonger à l'eau.
Aussitôt, moi, j'ai attrapé le bidon. J'avais un bidon avec moi pour plein d'essence.
Parce que du coup, vous avez plongé avec ce bidon qui vous permettait de flotter, c'est ça ?
Voilà, oui.
Et dans l'eau à moins 4 degrés, Jean est emporté par le fort courant à bout de force. Christine, elle, tente de nager vers l'embarcadère.
Je revenais vers la berge, mais arrivé à peu près une dizaine de mètres, je ne pouvais plus. J'étais fatigué, j'avais plus de souffle, j'étais le froid transi. On se dit, ça y est, c'est fini. Hein.
Et c'est un pêcheur, Philippe Bouquignot, qui aperçoit Christine en grande difficulté. Il appelle les pompiers et le SAMU. Mais le temps est compté.
Moi, je ne sais pas trop nager. Elle a dit « j'en peux plus » et puis elle s'est laissée couler. Donc j'ai jeté mon téléphone, tout, et puis j'ai sauté à l'eau.
Christine, hors de danger, son ange gardien court le long de la berge au niveau d'une autre personne dans l'eau à 100 mètres en aval, accrochée à un bidon rouge. C'est Jean qui, lui, est déjà pris en charge par Philippe Régnier.
Alors moi, je promenais mon chien, hein, comme tous les jours. J'ai entendu une personne crier au secours. Donc je voyais un bidon rouge au milieu de la Meuse. Je me suis approché de la Meuse pour lui demander de nager vers moi, mais il n'y avait pas moyen, il était fatigué, il avait froid. Mais à partir de ce moment-là que j'ai vu que sa tête, elle commençait à partir une deuxième fois dans l'eau, j'ai sauté dans l'eau, hein. J'ai nagé vers lui et je lui ai dit « donne-moi la main et laisse-moi faire le reste ». Et après, je l'ai ramené au bord. Bon, je l'ai tiré vers la rive en... sur le dos.
Le couple vient d'être sauvé par ces deux hommes qui jusque-là ne se connaissaient pas et que cette histoire va souder à jamais.
Et que s'est-il passé ensuite, Dimitri ?
Eh bien, petit tour à l'hôpital pour Christine et Jean, puis retour à la maison le soir même.
Ça m'arrive de faire des cauchemars quand même.
On a passé à côté d'une belle, quoi. On a eu chaud.
Heureusement que Philippe était là, quoi. Autrement, là, on n'aurait pas vu Noël encore.
Et une immense fierté pour les deux sauveteurs.
Si je n'étais pas là, il n'était plus là.
On a fait son devoir, quoi.
Ça aurait été un enfant, ça aurait été la même. Ça aurait été un chien, ça aurait été la même. Moi, je saute pour sauver un être humain ou une bête. Hein. C'est pareil, en fait, pour moi.
C'est-à-dire que la situation fait faire des trucs incroyables.
Je pense que l'adrénaline et beaucoup de choses doivent se mettre en place à partir de ce moment-là. On est une autre personne.
Vous le referiez ?
Pas de problème.
C'est fini, les promenades en bateau, là ?
Ah, il est terminé. Je ne veux plus entendre parler. Mais...
C'est fini.
Tiens, ça, c'est pour ton Noël.
Oh, bah, c'est gentil. Merci, Jean.
C'est quoi ?
Ah, c'est une petite bouteille de champagne. Bon, on la boira en pensant à lui et puis à ce qu'on a fait. Hein.
Profitons bien de ce Noël-là.
Et les deux sauveteurs ont été décorés de 4 médailles, notamment celle de la vie.
Merci Dimitri Ramelot, correspondant RTL dans le Grand Est.
Les héros de 2022, il est 12h12, tout pile. Alors on va marquer une pause et puis dans un instant on va commencer à décrypter l'actualité. Et notamment, alors c'est fou comme certains hommes d'affaires ou hommes politiques russes tombent facilement des balcons en ce moment. A tout de suite.
Antoine Cavallero, Vincent Parisot. RTL midi jusqu'à 13h. RTL Midi. Vincent Parisot, Antoine Cavallero.
L'épidémie, on peut parler ainsi, hein, l'épidémie d'accidents mortels ou de suicides continue chez les dirigeants ou hommes d'affaires russes qui ont montré leur hostilité à la guerre en Ukraine. Ainsi, en Inde, la police enquête depuis hier sur la mort suspecte d'un député régional russe, l'un des élus les plus riches du pays, Pavel Antov, 65 ans. Son corps a été découvert dans une mare de sang devant l'hôtel où il passait ses vacances. Et donc, il aurait fait une chute mortelle depuis la terrasse de cet hôtel.
Et son nom vient donc s'ajouter à une liste déjà très longue, Brice du Génie.
Oui, ils sont 14 désormais, 14 hommes d'affaires russes de très haut rang à avoir trouvé la mort depuis le début du conflit en Ukraine. Les deux derniers, en effet, ont été retrouvés morts dans cet hôtel dans l'est de l'Inde. Ils étaient en vacances. Le premier a fait un arrêt cardiaque et le second se serait donc suicidé en se défenestrant. Selon la police locale indienne, il était triste et déprimé par la mort de son ami deux jours avant. L'enquête est en cours. Ce sont les services criminels indiens qui en ont la charge. Alors la liste des morts, elle s'est allongée et sur cette liste, on trouve exclusivement des hommes âgés de 39 à 68 ans. Ils ont tous un lien direct avec les grandes entreprises russes, notamment Gazprom, principale société gazière du pays. 5 victimes étaient des dirigeants de très haut rang. On parle d'un ancien vice-président, on parle du directeur financier. Et puis l'autre entreprise concernée, c'est Lukoil, producteur de pétrole. Et là, on parle quand même du président du conseil d'administration qui se serait défenestré depuis son hôpital moscovite. Alors forcément, ça intrigue, car ces deux sociétés, eh ben dans les faits, elles sont dirigées, ou tout au moins tenues par Vladimir Poutine, parce qu'elles sont tellement importantes pour l'économie russe que rien ne peut se décider dans ces sociétés sans l'aval du Kremlin. Et au Kremlin, celui qui dirige, c'est bien le président russe.
Mais alors pourquoi, si le Kremlin est derrière tout ça, pourquoi éliminer ces personnes? Elles vous laissent s'opposer à Poutine?
Alors, s'opposer frontalement, sûrement pas, c'est beaucoup trop dangereux. Mais les élites économiques russes ne sont pas favorables à l'intervention militaire en Ukraine, parce que tout simplement, ce n'est pas bon pour les affaires. Certains, dans cette liste de noms, on pense notamment aux dirigeants de Lukoil, ont... pas toujours publiquement, mais en tout cas ne faisaient pas secret de leur inquiétude, leur opposition à cette intervention militaire. L'un d'entre eux l'avait clairement dit. Il avait dit que ce n'était pas une bonne idée. Après, ce conflit en Ukraine génère aussi des tensions dans les milieux d'affaires russes.
Donc, ce sont des hommes qui avaient une forme de proximité avec le pouvoir. Et en plus, Brice, les conditions de leur mort sont à chaque fois étonnantes.
Étonnantes et extrêmement violentes. Il y a trois exemples de tueries familiales, deux en Russie, une en Espagne, dans la station balnéaire de Lloret-les-Mares. À chaque fois, le père de famille, donc l'homme d'affaires dans une villa, aurait tué sa femme et ses enfants. L'un d'entre eux aurait poignardé sa femme, ses deux fils de 4 et 10 ans avant de se donner la mort. Un autre retrouvait une balle dans la tête dans sa piscine à Saint-Pétersbourg. Un empoisonné par du venin lors d'un rendez-vous chez un chaman. Et puis... 4 chutes, soi-disant accidentelles, par la fenêtre ou dans les escaliers. Une à Antibes, au début du mois de décembre. Et puis l'autre, le jour de Noël, donc en Inde. Bref, aucune mort naturelle. Alors les enquêteurs concluent à un suicide parce que la société du concerné était en difficulté du fait des sanctions internationales, ou bien d'une chute accidentelle dans les escaliers, ou bien d'une noyade lors d'une balade en bateau. C'est pas toujours très convaincant.
Non, c'est pas très, très...
Mais il faut quand même dire que dans ces affaires, on pense notamment à celles qui sont produites à l'extérieur de la Russie, où on peut penser que la police n'est pas à la du Kremlin, c'est le cas par exemple au Royaume-Uni dans la banlieue de Londres, ou bien en Espagne à laquelle je faisais référence, et bien là non plus les polices n'ont pas trouvé d'éléments suspects, en tout cas pas à ce stade.
Bon, ok, admettons Brice que la Russie soit derrière tout ça, que ça arrange Poutine, c'est quand même pas contre-productif, parce qu'en fait, même si vous prenez quelques précautions, hein, c'est le métier, tout le monde sait que c'est lui, quoi.
Alors, tout le monde pense que c'est lui. Mais ça, le président russe, en fait, il s'en moque. D'abord, son capital sympathie, et il le sait très bien, est considérablement entamé. Donc, il est très isolé sur la scène internationale. Donc, il s'en moque, en fait, de ce que pensent les autres dirigeants. Et puis, il a été formé au KGB, les services russes. Et là, le dogme, c'est l'intérêt de l'État, bien au-dessus, mais alors très au-dessus d'une ou plusieurs vies humaines. Je vous donne un exemple. Souvenez-vous de l'affaire Skripal. C'était au Royaume-Uni. L'affaire Skripal, ancien espion russe condamné en Russie pour haute trahison. En mars 2018, des décennies après sa trahison, dans la petite ville de Salisbury au sud de l'Angleterre, où il a trouvé refuge, lui et sa fille sont empoisonnés au Novichok. Or, le Novichok, eh ben, c'est un poison qui a été créé par les Russes, utilisé uniquement par les Russes. Donc, aucun doute sur le commanditaire de cette tentative de meurtre, puisqu'il s'en est sorti. Mais ensuite, il y a la diplomatie, les mensonges et puis le déni qui reprennent le dessus.
Donc, pour résumer, tout le monde sait, mais pas de preuves.
Pas de preuves, absolument. Et si on va même un peu plus loin, on peut dire que ça arrange le président Poutine. Il a intérêt à ce qu'on sache qu'on pense qu'il est derrière tout ça. Le message, il est « où que vous soyez ». Qui que vous soyez, je peux vous retrouver, vous empoisonner, vous ou vos proches, ou bien vous pousser dans l'escalier ou par la fenêtre. Ça sert sa politique de terreur et ça lui permet aujourd'hui de décider seul, sans aucune contradiction dans son pays. Je vous le disais au début, les élites économiques et politiques russes, dans ces élites-là, il n'y a pas un consensus pour soutenir la guerre en Ukraine. Ce serait même plutôt l'inverse s'ils pouvaient parler librement. Mais personne désormais ne s'aventurera à donner son avis. Alors on laisse passer l'orage dans les élites en essayant de sauver les affaires.
Et ceux qui ont déjà parlé et qui ne sont pas tombés par la fenêtre...
Préfèrent rester à leur place, voilà. Exactement. Mais certains ont retiré leur message. On pense notamment à Pavel Antov qui est mort en Inde. Ouais. Il avait retiré son message, rétro-pédalé, expliqué que oui, bien sûr, il soutenait l'intervention russe. Ouais. Mais ça n'a pas suffi, manifestement.
Merci Brice Dugénie du service étranger d'RTL. Dans un instant, c'est RTL Midi, votre vie. Alors on prépare la soirée de samedi.
On s'occupe du liquide.
Ah bah oui, parce que...
Avec modération, ouais. Tranquillement, sans abus, blanc, rouge, champagne, vous êtes perdu. Un caviste va vous aider, on en parle tout de suite.
RTL Midi, Vincent Parizeau, Antoine Cavallero, Lidl. RTL Midi, votre vie.
Belle robe vermeille, un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux. Un grand Bordeaux.
Évidemment, vous l'avez reconnu, Louis de Funès. Pourquoi ? Parce qu'on va s'occuper, comme vous l'avez dit, du liquide. On va remettre le couvert samedi soir, le réveillon du 31. Comment accompagner notre repas de fête ? Le vin rouge, le vin blanc, le champagne, lequel choisir ? On le rappelle, on l'a dit avant, juste avant, avec modération. On va faire ça tranquillement, hein, sans abuser.
Et avec Nils Vatto, caviste à Boulogne, en Ile-de-France. Bonjour.
Bonjour.
On commence par les bulles. Le champagne, c'est la boisson de fête par excellence. Comment faire son choix ? Comment s'y retrouver ?
Déjà, aller chez le caviste. On est là pour ça. Il y en a qui vont acheter ça en supermarché, en grande surface. Pourquoi pas ? Mais si vous voulez vraiment des conseils, c'est bien d'aller chez son caviste.
Parce qu'en grande surface, on ne va trouver que les grandes marques.
En plus. Et pas forcément le conseil qu'on pourrait avoir sur un accord mets et vins ou sur une raison de faire un cadeau si on veut offrir une bouteille de champagne ou d'alcool.
Parce qu'il y a autant de différences entre deux champagnes qu'entre deux vins rouges ou deux vins blancs.
Alors on l'oublie souvent, mais le champagne c'est quand même du vin.
Ouais.
Donc forcément, il y a des typicités en fonction du terroir, des typicités en fonction des cépages utilisés, des assemblages et de la signature que vous donnez le vigneron.
Alors on dit souvent le champagne c'est cher et que parfois vaut mieux d'ailleurs trouver autre chose que du champagne. On peut trouver un bon champagne abordable.
Oui, celui qu'on a ici par exemple.
D'accord, parce monsieur est venu avec quelques échantillons, c'est charmant.
Exactement.
Par exemple, oui. Donc c'est un champagne
de vigneron, récoltant manipulant. Qui vinifie également pour quelques grandes maisons dont on taira la marque, les marques. Donc le champagne moutardier pour le coup, avec une majorité de pinot meunier, qui est un cépage qui est un petit peu moins valorisé du côté de la Champagne à côté du chardonnay et du pinot noir, mais qui peut donner de très jolis vins.
Et donc là, on est à quel prix la bouteille ?
On est à 27 euros.
D'accord.
On est à 27 euros sur un joli champagne où il y a plus de produits chimiques qui sont utilisés dans les vignes. Ça, c'est déjà un argument assez important.
Ça veut dire qu'on aura moins mal à la tête le lendemain ?
Ça veut dire déjà qu'on aura forcément moins mal à la tête, à l'estomac sur le moment de le déguster. Et c'est surtout par rapport aux vignes et à la qualité des sols qu'on n'abîme pas.
Et le champagne, on le boit plutôt à l'apéro, plutôt au dessert, tout le temps ?
Tout le temps. Tout le temps, évidemment.
On peut faire le repas au champagne.
On peut faire le repas au champagne. Ce champagne, il marche bien avec des petits fours, un petit peu de saumon, des huîtres. Il y a beaucoup d'aromatiques, donc le côté iodé va ressortir. Une viande blanche, une volaille, ça marche très très bien, parce qu'il y a souvent un peu de crème, un peu de sauce, et les bulles vont venir casser le gras que peut avoir la crème ou la sauce. Avec le fromage, évidemment, je vous en ai parlé, avec notamment les fromages avec les accords locaux. Bon, on va plutôt prendre des fromages bourguignons.
Oui.
Un peu de caractère. Et puis après, sur un dessert un peu glacé, ça peut bien marcher.
Donc des fromages qui ont du caractère, le champagne, ça fonctionne très bien.
Ça fonctionne très bien avec
une bonne volaille, bonne volaille de Brest, un peu crémeuse.
Il y a même certains champagnes qui peuvent marcher avec une côte de bœuf.
Alors voilà, parce que je voulais
dire
que
ça marche aussi.
Rouge.
Vous êtes venu aussi avec des bouteilles de vin.
Alors, puisqu'on en parle, il y a un moyen qui est assez facile. Si vous voulez savoir s'il faut prendre du vin blanc ou du vin rouge, c'est les accords de couleur. Okay. Viande blanche, vin blanc, ou champagne.
Facile.
Viande rouge, vin rouge.
Okay. Ah bah voilà. C'est tout bête, mais...
Je peux m'en aller, c'est bon, c'est fini.
Non, parce que le fromage, on dit tout le temps, le fromage c'est avec du vin rouge, voilà, c'est la tradition. Mais il y a des blancs qui vont très bien avec le fromage.
Alors c'est surtout le blanc qui marche bien avec le fromage, parce que justement, il y a cette acidité qu'on a dans le vin blanc, qui va venir contrer le côté un petit peu gras ou un petit peu sec du fromage. Par exemple, un Sancerre, on n'est pas très loin... d'une fabrique, d'une appellation de crottin de Chavignol.
Oui.
En plus, le domaine de la Porte est à Chavignol, donc là, on est en plein dans l'accord. Et justement, il y a un équilibre qui va se créer en bouche. Alors qu'avec un vin rouge qui va être un petit peu plus tannique, forcément, ça va faire ressortir cet aspect tannique en bouche. Et du coup, ça va assécher un petit peu plus la bouche. Ça sera moins agréable.
Et dites-moi, parce que là, je suis passé au fromage, mais avant, on peut aussi manger du poisson pour le 31. Qu'est-ce qu'on boit avec le poisson ?
Là, pour le coup, du vin blanc, mais les accords de couleur, ça fait...
Les poissons sont blancs ?
Non.
Bah non.
Sauf le saumon.
Le maquereau, c'est un...
Le rouget, il n'est pas blanc.
Oh, sa chair est un petit peu blanchâtre, nacrée, subtilement.
Les poissons à chair bleue, comme le maquereau, on peut aussi mettre des vins rouges, très légers pour le coup, parce que sinon, les tanins vont venir prendre le dessus sur l'aromatique du poisson. Un vin rouge léger, un gamay de Touraine, peut bien marcher avec du saumon, par exemple. Après, c'est en fonction des goûts et des couleurs.
Et le saumon fumé ?
Et le saumon fumé, Un pouilly fumé ?
Un pouilly fumé.
Fumé, simplement. Fumé sur fumé. Une question, est-ce que c'est si important que ça, les millésimes, l'année ? Souvent, quand on n'y connaît pas grand chose, on se dit, plus c'est vieux, meilleur c'est.
Sauf quand c'est passé.
Ah voilà. Donc, voilà. Ça, c'est,
faut, vous pouvez sortir un...
Conseil du caviste, là. Hein.
On est vraiment là pour ça. Est-ce que les gens vont aimer des vins avec des arômes un petit peu plus évolués quand ça va partir sur le pruneau, sur le côté un petit peu truffé, un petit peu tabac, comme le peut être le fronçac que je vous ai apporté du château de la Dauphine? Ou est-ce qu'on préfère un vin dans sa jeunesse parce que vraiment on a ce côté vraiment fruité et un petit peu plus accessible à tous les palais?
Alors, ce qui est très important aussi, enfin vous allez peut-être me le confirmer, c'est la manière de servir le vin. La température à laquelle on va le servir. Les verres dans lesquels on va le servir.
Ouais, exactement.
Ouais. Là, qu'est-ce que vous nous conseillez ?
Alors déjà, des verres de forme Inao. C'est ce qu'il y a de plus
resserré vers le
classique, on va dire les verres universels.
Mm. Je crois que Louis Baudin est intéressé. Hein.
Par le vin rouge ?
Par le
partout,
verre.
Par les...
c'est votre anniversaire, Louis.
Anniversaire.
Donc des verres Inao donc, qui sont en forme...
Forme universelle, on va dire.
Voilà.
La température, trop froid, pas assez de goût, trop chaud... L'alcool qui ressort.
Alors, on reprend. Le champagne, on le sert à quelle température ?
Alors, souvent, il est servi autour de 6-7 degrés. Ça, c'est beaucoup trop froid, beaucoup trop frais. Ce qui peut être intéressant sur un joli champagne comme celui que je vous ai apporté ou d'autres, celui que vous avez dans votre cave, ça peut être bien de l'ouvrir un petit quart d'heure avant.
Le champagne ?
Oui.
Alors, ça, c'est une info.
Un petit quart d'heure avant.
Et la cuillère, ça marche vraiment ?
Ah, je sais pas, je vais toujours finir mes bouteilles.
Donc on ouvre le champagne 10 minutes avant, ça c'est une info.
10 minutes avant, ça reste un vin, il faut l'aérer.
Non plus carafer un champagne.
Vous pouvez, les grands champagnes, grands champagnes millésimés, vous pouvez les carafer, il n'y a aucun souci. Il y a suffisamment de bulles pour que ça tienne.
Donc environ 10 degrés pour le champagne.
Entre
8 et 10.
Entre 8 et 10.
Le vin blanc, vous avez parlé d'un pouilly fumé tout à l'heure.
6-7 degrés, on peut rester sur ces températures-là. On va vouloir garder ce côté très frais, très rafraîchissant. Il n'y a pas de bulles, donc il faut quelques degrés de moins.
Et mon bon Bordeaux.
Et votre bon Bordeaux ? Température ambiante.
D'accord.
Pareil, une petite ouverture.
Normalement, c'est pas trop chauffé. Hein. Normalement, on doit rester à 19 degrés.
Exactement.
Bon.
Et puis, par exemple, s'il faut lui remettre un petit bord de fenêtre parce qu'il est trop chaud, ça redescend rapidement.
Eh bien, écoutez, merci de tous ces conseils. Et on pourra d'ailleurs aller en demander d'autres chez vous, puisque vous êtes caviste à Boulogne, en Ile-de-France. Merci beaucoup, Nils Vatto. Et puis,
à très bientôt,
merci
à vous.
Beaucoup. On peut garder les échantillons ?
Ah, je vais vous aider à les descendre.
Ça va faire plaisir.
Vous êtes le bienvenu.
Merci.
Une courte pause et dans un instant, toute l'info.
Antoine Cavallero, Vincent Parisot. RTL midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Et il est 12h30.
RTL midi, le 12h30. Vincent Parisot, Antoine Cavallero.
Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Merci de votre fidélité en tout cas et merci de rester avec nous. Si vous l'êtes depuis déjà une demi-heure, c'est RTL midi et l'info c'est avec vous Antoine Cavallero.
La douceur de la Saint-Sylvestre, on attend jusqu'à 20 degrés ce week-end. La douceur déjà là sur la côte atlantique. Une tentative de suicide bien étrange à Saint-Raphaël. L'enquête débute mais elle s'oriente plutôt vers un féminicide. Des militants de la France Insoumise, cyber harcelé, nouvel épisode dans l'affaire Quatennens. Et puis message à marteler à quelques jours justement du 31. Quand on boit, on ne conduit pas.
À 12h40, l'inquiétude qui grandit autour de l'épidémie, de l'explosion du Covid en Chine. Alors est-ce qu'il faut protéger nos frontières ? La France y réfléchit. Est-ce que ça doit être fait au niveau européen ? Et puis au fond, est-ce que ça servira vraiment à quelque chose ? On va en parler donc à 1h20 avec l'infectiologue Benjamin Davido.
Et c'est justement la question du jour sur RTL.fr. Covid, craignez-vous une nouvelle vague venue de Chine ? Enfin, notre rendez-vous culture, laissez-vous tenter midi. Les belles découvertes, livre de Bernard Lehu, c'est dans 20 minutes.
N'oubliez pas, à partir de 13h, les auditeurs ont la parole. Alors, on peut parler effectivement de l'inquiétude face au Covid en Chine, mais de toute l'actualité et aussi des événements qui vous ont marqué en 2022. 32-10 pour dialoguer jusqu'à 14h30.
La météo à la fin du journal, un premier indice, Louis Baudin.
Oui Antoine, avec de la douceur encore aujourd'hui, hein, des températures 4-5 degrés au-dessus des moyennes, avec des averses et beaucoup de vent près de la Manche.
Merci et encore joyeux anniversaire.
RTL midi, Vincent Parisot, Antoine Cavallero.
Ah, ce sera une Saint-Sylvestre exceptionnellement chaude. On attend jusqu'à 20 degrés samedi.
La douceur qui est déjà une réalité. 12 degrés ce matin au réveil à La Baule. 14 actuellement. La station balnéaire de Loire-Atlantique, Mathieu Lopineau, où les habitants et les touristes s'adaptent à ces températures inhabituelles.
Marie-Claire et Gérard sont un peu déboussolés ce matin. Ils sortent de chez eux mitouflés, comme en hiver. Normal, nous sommes en plein mois de décembre. Sauf qu'il fait 13 degrés ce matin sur le remblai de La Baule.
Comme on n'a pas mis le nez dehors encore ce matin, on se méfie.
J'ai un soft shell et j'ai un polaire. Voilà.
Vous regardez plutôt le calendrier plutôt que la météo. On est en décembre, on s'habille.
Peut-être qu'on est trop habillé, mais ça va.
Déjà, moi, j'ai pas de gants. Oui.
Ces températures un peu clémentes, ça booste un peu.
Ah bah oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on a dit ce matin, on sort. Voilà. Ce qu'on veut, c'est profiter de la mer, du soleil, voilà, marcher.
On va se baigner.
Pour se baigner, il faudra donc attendre encore quelques semaines puisque l'eau n'est qu'à 6 degrés. Mais Nathalie, elle, n'a pas attendu pour prendre un déjeuner en terrasse en plein mois de décembre.
Même si on a des fois un manteau, on peut se retrouver en terrasse. Mais ça reste quand même inhabituel par rapport à d'autres années. On a très bien s'adapter. Moi-même, je suis marseillaise. Et finalement, la météo aussi n'est pas désagréable. Mais,
on n'a pas un temps marseillais, mais pas loin.
À Noël, j'étais bien sûr dans la famille, dans le sud, en t-shirt, sous le soleil. Ça, c'est très agréable aussi.
Ouais, des températures très douces, donc ici à La Baule, qui devraient se poursuivre jusqu'au réveillon.
Reportage de Mathieu Lopineau, correspondant RTL dans l'Ouest.
Ouais, 12 degrés à La Baule, hein, douceur inquiétante, conséquence du réchauffement climatique, disent certains évidemment.
Et dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, la France, mauvais élève. Pour respecter nos engagements de l'accord de Paris, nous devons baisser nos émissions annuelles de CO2 de 4,7%. Mais sur les 9 premiers mois de l'année, les chiffres sont tombés. Ce matin, la baisse est seulement de moins 0,3%. De quoi susciter la colère de François Gémen, co-auteur du dernier rapport du GIEC.
Le problème, c'est qu'il y a surtout eu des annonces, mais peu de mise en œuvre concrète. Il y a bien sûr cette annonce de 10 RER dans des métropoles autres que Paris. C'est une annonce qui va dans le bon sens. Il y a aussi au niveau européen l'annonce d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Mais pour le moment, ce ne sont que des annonces. Et le problème, c'est que ces annonces sont contrebalancées par des actions qui vont dans la direction exactement contraire, à commencer évidemment par la réouverture de la centrale à charbon de Saint-Avold.
Propos recueillis par Boris Karlamov pour RTL.
La France très très loin du compte donc dans la baisse de ses émissions de CO2 et très loin des engagements de l'accord de Paris. On peut en parler si vous le souhaitez au 3210. Un féminicide a-t-il été maquillé en suicide ?
La question se pose à Saint-Raphaël dans le Var. Bonjour Maxime Lévy.
Bonjour.
Le 24 décembre, soir du réveillon, une femme est retrouvée chez elle décédée, allongée sur son lit. Tout laisse penser qu'elle s'est donné la mort, mais l'enquête révèle très vite qu'elle a été tuée.
Exactement, reprenons l'histoire. Cette mère de famille de 31 ans est aperçue pour la dernière fois le lundi 19 décembre. Les voisins inquiets finissent par alerter les pompiers qui découvrent le corps de cette femme le 24 décembre. Allongée sur le lit, des médicaments éparpillés autour d'elle. Tout laisse donc penser qu'elle s'est suicidée, surtout qu'aucune trace de lutte n'apparaît dans son domicile, sauf que l'autopsie révèle des marques sur le cou de la victime. Elle a été étranglée. Le parquet de Draguignan le confirme. Elle a donc été tuée, mais par qui ? Cette femme est en couple et les enquêteurs découvrent que son compagnon a quitté précipitamment Saint-Raphaël et le Var le 20 décembre avec leurs trois enfants. Le lendemain de la dernière apparition de la victime, ils n'ont toujours pas été retrouvés. La question d'un féminicide qui est en suicide se pose donc inévitablement pour les enquêteurs. D'autres expertises auront lieu dans les prochaines semaines. Elles permettront notamment de dater précisément le jour de la mort de la victime.
Maxime Lévy du service police-justice de RTL.
Des militants de la France insoumise se retrouvent harcelés sur les réseaux sociaux.
C'est le dernier épisode de l'affaire Quatennens. On vous en parlait en début de semaine. Cette tribune publiée dans le journal Le Monde réclamant l'exclusion du député du Nord condamné pour violence conjugale. Texte signé par plus d'un milliers de militants de gauche. Thomas Després, bonjour.
Bonjour.
Et des militants aujourd'hui visés sur les réseaux sociaux par des soutiens d'Adrien Quatennens.
Oui, et certains n'hésitent pas à parler de traque. Des dizaines de militants opposés au maintien d'Adrien Quatennens au sein du groupe Insoumis, ciblés, des tweets, des messages privés, des insultes, parfois même même des menaces à peine voilées. Et derrière ce cyberharcèlement, un hashtag, le mot-clé « Soutien Adrien Quatennens ». Inutile de vous faire le sous-titre, hein. Ces internautes se présentent donc comme des soutiens du député du Nord. « Vous faites le jeu du RN », écrit l'un d'eux, « Virez-moi ces guignols ». Et selon plusieurs militants, ce déferlement n'aurait rien de spontané. En coulisses, des partisans d'Adrien Quatennens se seraient mis en contact sur des messageries instantanées. Objectif, organiser la riposte sur les réseaux sociaux. Et parmi les membres de ce groupe, on retrouve l'un des collaborateurs du député. Et on apprend ce matin que plusieurs militants insoumis ont saisi une commission interne à la France Insoumise, le comité de respect des principes du mouvement, c'est comme ça qu'il s'appelle, pour dénoncer cette vague de harcèlement.
Ouais, c'est chaud quand même en ce moment. Au sein même de la France Insoumise.
On en parlait au début de la semaine, il y a la base qui en ce moment est en train de se fracturer.
Merci Thomas Després du service politique de RTL. En Italie, Giorgia Meloni, la présidente du Conseil, vient de tenir sa conférence de presse de fin d'année. L'occasion pour elle d'évoquer les nouveaux cas de Covid venant de Chine et de vanter la réponse italienne à cette nouvelle crise. Rome vient en effet d'imposer des tests à l'entrée du pays aux voyageurs venant de Chine. La chef du gouvernement italien espère que le reste de l'Union européenne va maintenant suivre.
Le ministre de la Santé Schillaci a immédiatement ordonné la mise en place d'un test pour toute personne arrivant de Chine, mesure qui risque toutefois de ne pas être totalement efficace si elle n'est pas prise au niveau européen, car nous savons que nous pouvons le faire pour les vols arrivant directement de Chine, mais pas par exemple pour ceux qui font escale en Italie. Nous attendons, nous espérons que l'Union européenne agira en ce sens.
Per chiedere che sia l'Unione a prendere un provvedimento in questo senso.
Et une réunion sur le sujet, sur d'éventuelles mesures pour les passagers en provenance de Chine à l'échelle européenne, est justement en train de se tenir aujourd'hui à Bruxelles.
Ouais, on n'a pas encore le résultat, mais on va poser la question. Est-ce qu'il faut prendre cette mesure au niveau européen? Et puis même si on la prend, est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? On sera dans quelques minutes avec l'infectiologue Benjamin Davido.
Une nouvelle pluie de bombes sur l'Ukraine. Sur 69 missiles russes lancés ce matin, 54 ont été neutralisés, mais des dégâts importants. 40% des habitants de Kiev n'ont plus d'électricité. La capitale où l'on compte au moins 3 blessés. Les bombardements russes se poursuivent alors qu'hier, Sébastien Lecornu était à Kiev. Invité exceptionnel de RTL ce matin, le ministre des Armées le confirme. Paris va poursuivre son soutien militaire à l'Ukraine.
Il y a un énorme enjeu, c'est de maintenir en condition opérationnelle, comme l'on dit au ministère des Armées, les matériels qui ont déjà été livrés. C'est le principe de la baignoire, si vous voulez. Vous pouvez toujours la remplir. Si vous ne gérez pas le siphon, vous n'arriverez jamais à la remplir. Donc c'est la maintenance, par exemple, des canons César, qui est un enjeu majeur, pièces de rechange, capacité à former des mécaniciens. Puis bien sûr, il y a une actualité qui tient beaucoup lieu à la défense sol-air, c'est-à-dire en clair les nombreuses agressions que la Russie mène sur l'Ukraine actuellement sont des agressions sur des objectifs civils, notamment énergétiques, essentiellement, sur lesquels on a besoin de donner des moyens de légitime défense à l'Ukraine. On a évidemment des discussions sur des radars de longue portée, comme les radars de Thales qu'on appelle GM-200. C'était un des dossiers qu'on a fait aboutir lors de ce déplacement ici à Kiev.
Sébastien Lecornu, invité exceptionnel de RTL Matin avec Stéphane Carpentier. L'entretien à retrouver en longueur sur RTL.fr et sur l'application RTL. On l'apprend à l'instant, toujours à propos de ce dossier ukrainien, un missile antiaérien ukrainien s'est écrasé au Bélarus, en Biélorussie. C'est ce qu'affirment en tout cas les autorités à Minsk. Et concernant l'Afghanistan, enfin, toujours à l'étranger donc, les chefs de la diplomatie des grandes puissances du G7 somment les talibans de revenir de toute urgence sur l'interdiction jugée irresponsable et dangereuse, imposée aux femmes de travailler dans des ONG qui risquent d'affecter, je cite toujours, des millions d'Afghans.
Alors c'est vrai qu'on en a profité un petit peu tout à l'heure, hein, et Louis n'était pas le dernier.
Jamais le dernier.
On a parlé de vin, on a parlé de champagne, on a parlé d'accord avec les plats du réveillon. Mais évidemment, on le rappelle, hein, soyez très prudents sur les routes et consommez avec modération.
Oui, c'est très important ça.
Preuve que le message n'est toujours pas toujours bien entendu. Selon une étude de la prévention routière dévoilée ce matin, 43% des Français seront confrontés à cette question, donc boire ou conduire. La réponse, on la rappelle, est pourtant claire. Si vous prenez le volant, vous restez à l'eau. Anne Lavaux, déléguée générale de l'association.
Alors la meilleure des solutions, c'est bien évidemment de dormir sur place. Et quand on dit dormir, c'est faire une vraie nuit, de manière à ce que le temps d'élimination de l'alcool soit total. Et puis les autres solutions, c'est de désigner un SAM capitaine de soirée, alors qu'on le désigne en début de soirée, hein, pas à 3h du matin quand tout le monde repart. C'est bien évidemment d'utiliser les transports en commun, les taxis, les VTC quand ils sont disponibles. Et puis l'éthylotest, vous savez, ce petit éthylotest qu'on est censé avoir dans sa voiture, eh bien il faut l'avoir dans sa voiture, mais surtout il faut l'utiliser. Et quand on n'est pas très sûr de son taux d'alcoolémie, eh bien on souffle dans ce petit ballon et comme ça on a la solution. Conduire lentement, prendre les petites routes, boire de l'eau ou du café ou prendre un bonbon à la menthe, ce ne sont pas les bonnes solutions pour rentrer en toute sécurité.
Ah, certainement pas prendre les petites routes, éviter les contrôles, c'est certainement pas une solution. Vous avez entendu Anne Lavaux, la déléguée générale de la prévention routière, avec Julien Fautra. On vous pose la question, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez renoncer totalement à boire, rester sur place, contrôler votre taux d'alcoolémie, qui sait, désigner un capitaine de soirée? Il y a plein de techniques, mais surtout, soyez prudents et on en parle au 32-10.
Le football, suite et fin de la 16e journée de Ligue 1, Lorient-Montpellier à 17h, 19h Reims contre Rennes, enfin à 21h Marseille face à Toulouse et Nice contre Lens. Le temps, on vous retrouve, Louis Baudin, encore de la douceur.
De la douceur et de l'agitation, hein. C'est vrai que les températures seront particulièrement douces cet après-midi, au-dessus des moyennes de saison, 9 à 13 degrés dans la moitié nord. Bon, vous allez me dire, dans l'absolu, c'est pas toujours très chaud quand même, 13 à 16 ou 17 degrés dans la moitié sud. Tout ça donc avec une perturbation qui va plutôt glisser du sud-ouest aux frontières de l'Est cet après-midi, avec donc des nuages, de la pluie, un peu de neige, hein. C'est une bonne nouvelle sur les Alpes du Nord à partir de 1700 mètres. Bon, ça suffira pas, hein, à compenser les fonds de ces derniers jours. Mais c'est toujours ça de prix, exactement. Et puis dans la moitié nord, là, on aura quelques éclaircies, mais avec encore un risque d'averse, notamment près de la Manche, où d'ailleurs le vent atteindra les 90 km/h.
Merci Louis, et à tout à l'heure.
Le Covid explose en Chine. La Chine va réouvrir ses frontières. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous? On en parle dans un instant, justement avec l'infectiologue Benjamin Davido. À tout de suite.
Antoine Cavallero, Vincent Parisot. RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi. Vincent Parisot, Antoine Cavallero.
Un absentéisme record lié à l'explosion du nombre de malades du Covid dans le pays, d'où la fermeture là encore de nombreuses usines. La Chine refuse de publier le nombre précis de malades, mais la réalité, ce sont des entreprises en panne, l'usine du monde qui tousse.
Voilà, donc Stéphane Pendrin, le correspondant d'RTL en Chine, qui vous donne une petite photo de la situation aujourd'hui dans ce pays, au moment où les ministres de la Santé des 27 sont réunis à Bruxelles avec les représentants des agences européennes pour discuter des mesures de protection à prendre de manière coordonnée pour faire face à cette explosion de l'épidémie en Chine, alors que Pékin prépare un rétablissement progressif de l'autorisation des voyages à l'étranger. Tout ça en même temps, évidemment, ça pose problème.
Et Emmanuel Macron a déjà demandé au gouvernement des mesures adaptées de protection. L'Italie, de son côté, a décidé d'imposer des tests obligatoires à tous les voyageurs venant de Chine. Mesures déjà annoncées par le Japon, par les États-Unis. Pour en parler avec nous, Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'il faut des mesures de protection au niveau européen ?
Écoutez, oui, je le crois, parce que jusqu'alors, à chaque fois qu'on a pris des mesures, on a bien vu que chacun faisait différemment et que malheureusement, ça ne suffisait pas à stopper l'arrivée du virus qui souvent était déjà sur le territoire européen. Les frontières sont extrêmement poreuses dans le cas de Schengen. Et la question qui va se poser également, c'est à l'image de cette unisson qui a permis d'obtenir le vaccin, comment est-ce qu'on va faire également en termes de masques, de tests et de médicaments à l'heure où la Chine consomme énormément de médicaments et on sait qu'il y a une certaine tension d'approvisionnement dans le domaine, notamment de l'infectiologie, en antibiotiques et en paracétamol.
Oui, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure dans RTL Midi. Mais ça veut dire, vous avez parlé de masques, ça veut dire qu'il faut aussi, nous, de notre côté, se préparer à remettre le masque ?
Je crois, oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas uniquement une problématique de stopper les Chinois qui viendraient en France et ou de les tester. On sait bien que ça veut dire qu'il va y avoir du virus qui va circuler probablement à grande échelle sur la planète, un petit peu comme en 2020. Évidemment, dans des proportions différentes, dans le sens où en France, on a été très largement vaccinés, oui, et protégés. Ça. Mais encore une fois, il faut-il être à jour de ces rappels vaccinaux. Et je vous rappelle, si je puis dire, que seulement 40% des plus de 70 ans ont bénéficié du rappel bivalent Omicron et que je pense que c'est vraiment l'opportunité de se mettre à jour pour se protéger face à ces sous-variants. Et aujourd'hui, celui qui semble sévir, c'est le BF7 en Chine, qui est un sous-variant d'Omicron. Mmh. Mais on n'a aucune certitude quant au fait que ça soit exclusivement ce variant qui existe déjà en quantité minoritaire en Europe.
Mais si on vous comprend bien, vous nous dites quand même entre les lignes que quelles que soient les mesures que l'on va prendre, ce virus-là, avec ce nouveau variant venu de Chine, il va arriver chez nous.
Bah oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, c'est une poussée du Covid. Et on a bien vu que lorsqu'il y avait une poussée du Covid dans le monde, les derniers exemples, c'est l'an dernier, exactement à cette même période en Afrique du Sud, lorsqu'on a fermé les frontières avec l'Afrique du Sud, on a vu que ça n'a pas permis de stopper Omicron alors qu'on était en pleine vague de Delta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un des scénarios possibles, c'est l'arrivée d'une dixième vague dans la neuvième vague, en plein début de l'hiver, ce qui, épidémiologiquement, n'est pas tellement choquant, puisque c'est le début de l'hiver, on l'oublie, qu'on a eu un automne particulièrement doux, et en réalité, il faut se mettre en ordre de bataille. Toutes les mesures barrières sont bonnes à prendre pour faire une digue face à ce virus et faire en sorte que cette triple épidémie puisse s'arrêter, puisqu'il ne faudrait pas une quadruple épidémie, si je puis dire, dans cette triple épidémie qui est particulièrement difficile pour l'hôpital.
Mais alors, est-ce que ça servirait vraiment à quelque chose de réinstaurer des tests PCR obligatoires aux frontières ?
La réponse est probablement non. Simplement, l'intérêt, c'est la surveillance avec le PCR, comme vous l'avez précisé, d'avoir ce séquençage qui est fait, d'avoir un criblage pour avoir une idée un peu plus précise du variant. Si tant bien est, c'est bien un sous-variant d'Omicron et pas qu'on ait affaire à nouveau à un nouveau SARS-CoV, si je puis dire, un Covid-23, ce qui évidemment ne serait pas une bonne nouvelle.
Et ça, on le saura si ça arrive. À quel moment? Et est-ce qu'on le saura, j'ai envie de dire, un peu trop tard?
Alors, c'est sûr que si les mesures sont décidées, comme j'entends en Italie et aux États-Unis autour du 10 janvier, c'est trop tard. Je crois qu'il faut commencer dès maintenant. On sait que le séquençage, ça prend un petit peu de temps. Et évidemment, cette information, on devrait l'avoir si on débute dès maintenant, d'ici une huitaine de jours. Et je pense que c'est en tout cas la bonne mesure à faire pour avoir un élément d'orientation. Mais encore une fois, savoir qu'il y a du virus, si de l'autre côté, on ne se protège pas, si on ne fait pas un effort de redoubler sur les gestes barrières, le masque, qui d'ailleurs, je le rappelle, est efficace également sur la grippe, qui n'a même pas atteint son pic épidémique et qu'on ne se vaccine pas, comme ça a été dit par notre ministre de la Santé il y a quelques semaines, c'est-à-dire une vaccination un peu plus universelle tous ensemble, eh bien on risque de se retrouver à nouveau avec des cas de contamination et des malades. Et je rappelle que ce fardeau d'Omicron, il ne faut pas le négliger, c'est quand même 5% de décès chez les personnes hospitalisées, c'est deux fois moins que Delta, mais ça reste un véritable tribut, si je puis dire, de santé publique, et c'est bien ce qu'on observe malheureusement en Chine.
Vous avez évoqué l'hypothèse donc de ce nouveau variant qui pourrait poser des problèmes, s'il existe et s'il est découvert, mais c'est pas aux Chinois, ça serait pas aux Chinois de le faire, ce travail en amont?
Évidemment, le problème, c'est que les données qui viennent de Chine, on sait qu'elles sont toujours douteuses, si je puis dire. On a entendu, je crois, ce chiffre qu'il y a eu seulement 10 morts, alors qu'on voit que les hôpitaux sont remplis de formes sévères chez des gens en grande partie pas vaccinés. Donc, sans dire qu'il faut se méfier, il est évident qu'il nous faut nos propres données. C'est comme ça qu'on a toujours procédé. Et encore une fois, la meilleure façon de se prémunir, au-delà des données, c'est de se protéger. Et je crois que dans le vivre avec, finalement, on a un galop d'essais grandeur nature. C'est l'un des derniers pays qui résistait, si je puis dire, avec ses stratégies zéro Covid. Et on voit bien qu'il y a une alternance dans le monde entier de ce virus. Et donc, il faut jouer le jeu. Rappelez-vous, avant, on parlait de variant anglais, variant sud-africain. S'il faut les donner un nom, c'est le variant chinois. Et donc, il faut qu'on soit en mesure de réussir. Et comment réussir? Eh bien, c'est les rappels vaccinaux, entre autres, mais aussi les gestes barrières.
Vaccination, rappel de la vaccination, gestes barrières, masque, on se lave les mains, les distances. J'ai l'impression qu'on a déjà entendu
on
ça.
On se répète un petit peu, là,
je pense que c'est
quelque part la bonne nouvelle.
Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Benjamin Davido, infectiologue.
Je vous en prie.
À bientôt, infectiologue à Raymond Poincaré, hôpital de Garches. Il est 12h51. Eh bien, moi, je vous propose d'ouvrir deux bon bouquin dans un instant avec Bernard Lu.
Antoine Cavallero, Vincent Parisot. RTL midi jusqu'à 13h. RTL. Laissez-vous tenter midi.
Laissez-vous tenter midi. Vous savez, c'est la culture qui passe à table tous les jours dans RTL midi. Bonjour Bernard Lehu.
Bonjour Vincent, bonjour à tous et bon appétit alors.
Oui, enfin, on se prépare.
On va
pris les doigts dans le pot de confiture, vous savez. Alors, avec vous, on revient sur deux livres et deux auteurs qui ont marqué cette année 2022. Profil tout à fait atypique.
Ah oui, exactement.
Et le premier, justement, oui, c'est un écrivain SDF qui vit toujours aujourd'hui dans la rue.
Mais oui, cher Antoine. Il s'appelle Hervé, sans H, et cet ancien enfant de la DAS a toujours trouvé dans l'écriture un refuge, un abri, lui qui en est privé depuis de nombreuses années.
Dans la rue, le temps est très long. Je me lève très tôt et je me couche très tard. Par exemple, l'hiver, c'est insupportable. Donc, j'ouvre un carnet, j'écris ce qui me passe par la tête, ou je prends des notes, ou je griffonne un petit dessin. Ça peut être un poème, puis je le garde. Ça tue le temps.
Et vous avez toujours eu les moyens de vous acheter de quoi écrire?
Ben, c'est un tout petit budget, mais budget quand même, c'est vrai, que quand on vit que de la Manche. Mais il y a aussi la bienveillance des personnes du quartier, par exemple. Je me souviens d'une dame qui régulièrement m'amenait des stylos et des petits carnets parce qu'elle me voyait écrire, donc elle me disait, bah, tiens, au lieu de me donner une petite pièce pour aller boire une bière, elle me dit, je préfère te donner un crayon et un carnet, et je trouvais ça plutôt sympathique, quoi.
Et alors dans son premier livre, publié au printemps, Écriture carnassière, Hervé raconte dans une langue remarquable, il faut le souligner, à la fois poétique et crue, d'où il vient, son enfance sans père ni mère dans le nord de la France, puis la marginalité et la vie dans la rue, mais aussi l'histoire d'amour vécue avec une femme qui a voulu l'arracher en vain à sa vie de SDF. Ils ont eu tout de même deux filles, ça paraît incroyable, ouais. Cette histoire, Élise et Lou, qu'Hervé surnomme ses deux poumons.
Oh, j'ai du mal à en parler tellement c'est... Et ouais, je les appelle mes deux poumons parce que je crois que sans elles, je serais parti depuis un petit bout de temps quand même. Et quand je parle de partir, c'est partir définitivement. Donc ouais, j'ai l'impression qu'elles me tiennent en vie parce que elles sont pleines de vie, je sais qu'elles m'aiment et moi je les aime à un niveau stratosphérique. La première fois que Premier Poumon a prononcé le mot papa...
Élise.
Oui, ça fait. J'ai fondu en larmes parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que c'est un mot que j'avais jamais prononcé. J'aurais dû être heureux d'entendre ma fille dire papa et moi je me suis mis à pleurer dans mon coin en me disant mais jamais j'ai prononcé ce mot et waouh. Donc c'est là où on se dit, on a l'impression qu'on ne fait pas partie du même monde que les autres, donc en marge, forcément.
Hervé, le poète SDF, a donc publié cette année Écriture carnassière aux éditions Maurice Nadeau.
Et le livre s'est bien vendu. Je vous pose la question parce que vous nous dites qu'il est toujours dans la rue.
Oui. Le livre, il a eu une presse évidemment incroyable, hein, vu la personnalité, le profil de cet auteur. Et le livre marche tout à fait correctement, oui, en effet. Mais c'est un très beau texte.
Bien sûr, vous nous l'avez souligné avec une écriture remarquable. Alors, autre écrivain avec un profil inattendu, lui aussi, il a marqué l'année 2022. C'est un petit épicier de Roubaix. Dans le Nord.
Mais oui, Jamel Chérigui. Alors, ça n'est pas un inconnu. Hein. Lui, il avait déjà écrit un premier roman très remarqué, La Sainte Touche, et il a remis ça avec Le Balato, une plongée haute en couleur, très haute en couleur, dans les tripots de jeux clandestins, peuplés de personnages pittoresques, dont son héros principal, un gamin un peu naïf, qui va se retrouver embarqué dans des cambriolages aussi spectaculaires que foireux. Et on se demande bien où Jamel Chérigui est allé en chercher les scénarios de ces cambriolages.
Bah, comme il n'y a pas encore vraiment prescription, je ne donnerai pas tous les détails. Mais ouais, c'est un milieu que je connais bien. Et même si on laissera le suspense, mais même si je n'y ai pas participé directement, je connais beaucoup de gens. Et là, peut-être sur un ton un peu plus tragique, qui eux ont opté pour ce choix de vie. Donc je suis assez au fait des techniques.
Et parallèlement à l'écriture, Jamel Chérigui tient donc toujours son épicerie à Roubaix, Bernard.
Eh oui, le parvis où il passe depuis 8 ans ses journées derrière sa caisse.
Salut l'écrivain, tu vas bien Jamel ?
Ça va et toi ?
Félicitations à ton convive.
Merci.
Allez, au revoir, à bientôt.
Comment ça se passe? Comment vous organisez vos journées entre ce travail ici et l'écriture ?
Moi je viens plutôt en début d'après-midi jusqu'en fin de soirée. Puis ensuite, je rentre chez moi. C'est là que je me mets à écrire. Et ici, j'en profite aussi un petit peu derrière le comptoir pour corriger ce que j'écris la veille et pour lire aussi beaucoup entre deux clients. Et voilà, s'il vous plaît, 15,50 en retour.
Merci.
Alors, bien sûr, et le succès aidant, Jamel n'est plus tout à fait un commerçant comme un autre.
Ben, les clients, ils sont plutôt fiers, d'autant plus que Roubaix, c'est une ville qui, malheureusement, pâtit souvent d'une réputation un peu négative. Donc, qu'on puisse montrer qu'il n'y a pas que des choses sordides qui s'y passent, ça ravit tout le monde.
Vous le vendez, votre livre, d'ailleurs, là, dans votre épicerie ?
Ben, je le vends pour une seule et bonne raison. Il y a malheureusement encore des gens, notamment les jeunes, qui ont peur de pénétrer dans une librairie. Pour les arranger, on le vend ici.
Est-ce qu'il y a des
gens qui viennent avec le livre déjà acheté pour le faire dédicacer ou pour échanger avec vous.
Ah bah ouais, maintenant ma clientèle, elle se divise en deux. Ceux qui viennent faire des courses dans le magasin et ceux qui viennent me faire signer leur bouquin. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils en profitent de temps en temps pour faire leurs courses en même temps. Donc c'est, je suis gagnant sur tous les tableaux.
Voilà, Jamel Cherighi, l'écrivain qui n'oublie pas d'être épicier, ou l'inverse. Son roman, Le Balato, est à lire aux éditions Lattès.
Très belle histoire.
Voilà donc ces deux livres qui ont marqué l'année 2022. Hervé, donc écriture carnassière aux éditions Maurice Nadeau, et Jamel Cherighi, Le Balato, chez Lattès. Merci beaucoup, ça donne vraiment envie de les lire. On vous remercie.
Oui.
On vous voit pas demain. Donc,
non, c'était ma dernière journée de l'année.
Profitez bien. Et à l'année prochaine, cher Bernard. Il va être 13h. On se dit à demain, nous.
Non, je vais peut-être faire quand même un petit rappel des titres.
Ah bah oui, c'est vrai, vous êtes là pour ça. Ça sera dans quelques secondes.
Juste après la pub.
RTL Midi.